Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode un petit peu particulier du Rendez-vous Tech, un épisode bonus où nous parlons de Shenzhen, la ville chinoise qui est un petit peu le cœur de la fabrication de la tech, de la manufacture de la tech, surtout pour ce qui est du monde de la mobilité. Et pour parler de ce sujet, nous avons Eri et Marie qui sont deux expatriés qui vivent à Shenzhen et qui travaillent dans le domaine de la tech là-bas. Et vous allez voir qu'on va parler de beaucoup de choses, bien sûr de la tech directement, mais aussi de la vie et de la des habitudes et des traditions et de la société chinoise. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira. Et je précise, bien sûr, que comme c'est un épisode bonus qui vient en plus des épisodes traditionnels, il ne compte pas pour le Patreon du Rendez-vous Tech, donc les Patriotes ne seront pas débités pour cet épisode en plus. Mais si vous souhaitez soutenir cette initiative et le Rendez-vous Tech en général, bien sûr, vous savez que vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvtech. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que cet épisode vous plaira et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode normal très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode un petit peu particulier du Rendez-vous Tech, peut-être même très particulier. On va aujourd'hui prendre le temps de discuter avec deux Français qui sont expatriés en Chine et pas n'importe où, à Shenzhen, dont je viens d'apprendre que ça se prononce Shenzhen et pas Shenzhen ou Shenzhen ou une autre prononciation du genre. Donc on a une connexion directe jusqu'à là-bas, ce qui fait que les petits paquets de données doivent voyager très longtemps, donc on a moins d'immédiateté dans la conversation que c'est le cas habituellement. Donc j'espère que vous nous excuserez cette petite différence, mais je pense que ça vaut la peine. Donc je remercie très chaleureusement Eri Adrian Jaffi et Marie Tatibouet de nous rejoindre dans l'émission. Bonjour à tous les deux.
Super d'être bonjour, là, Patrick.
Merci d'avoir accepté d'être là. Vous participez à vous êtes dans l'industrie de la tech. Je peux peut-être vous laisser dire ce que vous faites là-bas si vous le souhaitez, et je vais le faire peut-être d'une manière un petit peu intéressante pour les auditeurs. Je vais vous demander comment vous êtes français, j'imagine que vous habitiez en France, hein, mais comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à aller vivre à Shenzhen, à aller vivre en Chine. On va commencer peut-être avec Marie, honneur aux dames.
Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marie Tatibouet et j'ai commencé mon agence qui s'appelle TCL ici à Shenzhen. Donc, j'étais en école de commerce en France et j'ai fini mon cursus à Shanghai. Et puis, j'ai trouvé un poste dans une très grosse boîte de smartphones qui s'appelle Oppo, à Shenzhen, et donc j'ai déménagé à Shenzhen pour les aider à faire leur digital marketing. Et je me suis lancée un peu dans la French Tech. J'ai commencé à parler avec toutes les personnes, les makers, les gens qui font du VR. Il y a plein de gens ultra intéressants dans la tech. Et puis l'année dernière, j'ai monté ma boîte pour être en freelance digital marketing full time. Et c'est ce que je fais depuis ce temps.
D'accord, super. Et du coup, je vais poser la question à Eri aussi, mais avant ça, c'est quand même, vu d'ici, c'est un petit peu, je vais pas dire extravagant, mais entre courageux et étonnant de se dire je vais aller travailler là-bas. là, c'était dans le cadre de tes études, si j'ai bien compris, mais est-ce que c'était une réflexion que tu avais faite depuis longtemps? C'était le résultat d'une réflexion ou tu t'es retrouvé là-bas et puis tu t'es dit « allez banco », est-ce qu'il y a, tu trouvais des opportunités là-bas qui te semblaient ne pas exister ailleurs? Comment ça s'est passé dans ta tête, ce changement de vie?
Ben, moi, j'avais toujours rêvé d'aller en Chine, en fait. Et donc, quand j'étais à l'EM Lyon et que j'ai vu l'opportunité de finir mon cursus à Shanghai, je me suis dit, allez, on y va tout de suite. Mais à Shanghai, c'est un peu plus difficile de trouver du travail si on ne parle pas mandarin couramment. Et à Shenzhen, justement, parce que c'est une ville qui est tellement tournée sur l'export, ça a été plus facile de justement trouver des boîtes chinoises qui veulent... aller sur l'étranger plutôt que le contraire, et ça m'a permis de pouvoir explorer la Chine en restant ici plus de temps.
D'accord. Donc Shanghai est peut-être un petit peu plus tourné vers le marché chinois, et Shenzhen a des ouvertures sur sur l'étranger, quoi.
Oui.
D'accord. Ok, Eri, bah, même question. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à travailler à Shenzhen?
Bah alors, pour ma part, en fait, j'ai fait une école d'ingénieur d'abord, puis après j'ai eu l'occasion de faire quelques semestres à l'étranger, notamment en Malaisie, en Corée. Et c'est surtout ce dernier séjour en Corée qui m'a donné envie de retourner en Asie, parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup d'innovation, c'était assez rapide. Il y avait beaucoup d'aspects d'entrepreneuriat, et j'ai quand même bossé 2 ans en France avant d'avoir une opportunité. Shenzhen m'a appelé et j'ai dit pourquoi pas. Bon, j'ai quand même d'abord demandé où est-ce que c'était. On m'a dit c'est au nord de Hong Kong. J'ai fait bon, d'accord, j'arrive. Et du coup, c'est vrai. Il faut dire que la Chine, c'est pas un pays que j'avais en tête. J'avais plus des pays en tête comme la Corée ou alors le Japon. Mais quand j'ai vu cette opportunité arriver pour être un peu ingénieur, un software engineer dans une joint venture franco-chinoise, j'ai dit d'accord et je me suis jeté. Il y a 2 ans.
Et alors donc, tu as travaillé 2 ans en France, question follow-up, hein, comme je l'ai fait avec Marie, tu as travaillé 2 ans en France et 2 ans à Shenzhen maintenant. Est-ce que tu as vu des différences flagrantes? J'imagine que oui, mais je mange peut-être un peu sur les questions que je vais te poser après, mais est-ce que tu es content d'avoir fait ce choix finalement, déjà maintenant, après 2 ans?
Aucun regret. Après 2 ans, vraiment aucun regret. Parce que c'est une approche un peu... Enfin, de ce que j'en ai vu, c'est qu'un peu les Coréens et les Malais, ils ont une culture un peu... Ils ont quand même un bout de culture occidentale, juste un bout, pas totalement. Mais la Chine, c'est vraiment un pays qui est resté fidèle à sa culture sans interférence de la part d'autres pays. Et ça, je pense que c'est vraiment une expérience que je ne regrette pas d'avoir eue. Voilà.
D'accord.
Et au niveau opportunité de travail, c'est bien d'avoir... c'est vraiment bien d'avoir vu les deux côtés, en fait. Le côté français, le côté ingénierie à l'occidental, et un peu le côté ingénierie chinoise dans lequel tu évolues dans un écosystème différent, totalement différent.
Bah alors justement, c'est l'occasion de vous poser une autre question à tous les deux. Par rapport à la manière dont les Français travaillent en France, quelles sont les choses qui choqueraient le plus les Français qui arrivent à Shenzhen et qui découvrent la manière de travailler, l'environnement chinois là-bas?
Moi, je dirais que c'est incroyablement chaotique. Mais en même temps très efficace. Si on est capable de quand même donner des conseils assez stricts aux Chinois en disant c'est exactement ce que je recherche et qu'on accepte qu'ils vont peut-être pas tout nous expliquer, ils peuvent être très efficaces et bien plus efficaces que n'importe quelle autre culture que j'ai déjà vue.
Eri.
Alors moi le vrai choc qu'on a en arrivant ici, c'était la culture de la face. Ils ont un mot spécial, c'est traduit par normalement le mieux c'est mianzi, je crois, mianzi, quelque chose comme ça. Et en fait ça veut dire la face, et ça veut dire qu'en fait les Chinois n'aiment pas perdre la face par rapport à quelqu'un d'autre. Et c'est une notion qui est incluse même au travail. C'est-à-dire que demander à quelqu'un de faire quelque chose, il vous dira toujours oui. qu'il sache le faire ou pas, il vous dira oui parce qu'il veut pas perdre la face en face de vous.
Ça doit, ça devient un peu amener une des expériences intéressantes, effectivement.
C'est de la gymnastique mentale pour travailler avec ça, par exemple. Un exemple simple, c'est en France, si quelqu'un a fait une erreur, on dit excuse-moi, tu as fait une erreur, est-ce que tu pourrais corriger? En Chine, si on fait ça, la personne va nier en bloc. En général, enfin, mon expérience, c'était que la personne nie en bloc, a dit non, il n'y a pas de problème. L'erreur est là, en face de lui, et il va nier en bloc. Donc, il faut un peu faire de la gymnastique mentale, au lieu de dire tu as fait une erreur ici, il faut arriver et lui dire il y a une erreur là, quelqu'un a fait une erreur ici, est-ce que tu peux voir si tu peux corriger? Et là, le chinois, enfin, là, la personne va corriger directement.
D'accord. Donc, choc culturel, effectivement.
C'est un peu la gymnastique mentale. Voilà.
C'est ton expérience aussi, Marie?
Oui, absolument. Et c'est vrai, utiliser des mots, comme Harry le dit, comme dire comment est-ce qu'on pourrait optimiser plutôt que de dire c'est pas bien fait, ça va faire toute la différence. Et un autre mot que je dirais vachement important, à part mianzi, c'est aussi guanxi. Et guanxi, ça veut dire relation.
Exactement, oui.
Et c'est, enfin, ils font tout par relation. Justement, quand j'essaye de recruter de nouveaux clients, je ne passe que par le bouche à oreille, etc. Parce que souvent, quand j'envoie un email, ça doit sortir en spam parce que je n'ai jamais de réponse.
D'accord. Donc il faut les relations aussi. Alors si on essaye de voir les choses, peut-être l'image que nous on a d'ici de la ville, hein, si on parle de Shenzhen spécifiquement, à mon avis la plupart des auditeurs qui nous écoutent vont penser à Shenzhen et vont penser à une sorte d'immense ville usine Foxconn. Où on fait des iPhones et d'autres téléphones en masse et avec des dortoirs et des enfin une ville presque de scénario de science-fiction apocalyptique quoi. est-ce que c'est il y a de ça? Est-ce que c'est totalement différent? Quelles étaient vos premières impressions sur la ville vraiment en arrivant et puis peut-être quelles sont les impressions maintenant?
Ben, ce que je disais déjà, on va commencer par la naissance de la ville. Est très récente. Shenzhen n'existe que depuis une vingtaine d'années et c'est une énorme métropole. On est, je ne sais pas quels sont les chiffres officiels parce qu'ils changent en permanence, mais entre 15 et 25 millions. Et par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que Shenzhen, ça a été la création de plein de petits villages qui ont été regroupés ensemble. Pour que Deng Xiaoping dise, qui était ministre avant dans les années 90, pour dire OK, on va faire de ce regroupement de villages la ville de Shenzhen et on va donner à Shenzhen accès en tant que zone économique spéciale pour tester, pour voir si on peut essayer d'augmenter l'export sur les pays étrangers. Donc déjà, il faut comprendre que Shenzhen, c'est ça. Et
donc, dans ce sens, excuse-moi, ça veut dire que c'est un contexte qui est très différent du reste de la Chine. Ça n'existe pas vraiment ailleurs en Chine, c'est ça?
Exact. Eri, je t'en prie.
Oui, non, c'est effectivement, c'était une ville pilote un peu, qui a démarré en même temps que trois autres villes. Je connais pas exactement le nom de ces villes. Et qui était faite pour ouvrir le marché à l'étranger, pour attirer les investissements étrangers. Et après, et effectivement, pour répondre à ta question, Patrick, Shenzhen, ce n'est pas que des usines. C'est aussi une des plus grandes places boursières en Chine. Je crois même que le taux d'échange dans la bourse de Shenzhen est supérieur au taux d'échange de la bourse d'Hong Kong. Et c'est aussi une grande place financière aussi en Chine. Très importante pour, bah notamment parce qu'il y a les échanges avec Hong Kong. Il y a beaucoup d'import-export. Effectivement, il y a vraiment deux facettes de la ville. Enfin, il y a plusieurs facettes de la ville. Il y a la facette financière, celle qu'on ne voit pas vraiment souvent dans les documentaires, qui raconte, qui est vraiment liée aux échanges, au stock exchange et aux relations avec Hong Kong. Il y a aussi l'aspect usine. Alors là, c'est comme tu l'as dit, il y a des usines qui sont plantées nulle part et qui, avec des dortoirs qui poussent à côté. Et il y a aussi un gros aspect créatif. Un gros aspect créatif, effectivement, comme Marie l'a souligné précédemment, il y avait les makers tout ce qui est maker, ou alors tout ce qu'ils essayent de pousser dans l'open source. Baidu et Tencent ont leur siège ici, ont des sièges ici en tout cas. Et voilà, donc c'est aussi un gros hub créatif quelque part.
C'est...
Et le
oui,
gouvernement de Shenzhen, le gouvernement de Shenzhen a vraiment investi énormément dans tout ce qui est incubateur et surtout dans tout ce qui est design. C'est vrai que du coup maintenant on voit beaucoup de nouvelles lignes de métro ouvrir pour justement nous relier à tous les nouveaux high-tech parks et design parks qui sont en train de se créer. Parce que il y a vraiment un investissement massif par le gouvernement. Je crois qu'ils ont investi dans au moins 50 ou 60 incubateurs, ce qui est quand même délirant.
Ouf. Effectivement. Mais et, du coup, attends, oui, vas-y, Eric.
Ils ont aussi le projet de créer, justement pour rebondir sur les lignes de métro, ils sont quasiment en train d'en créer 35. Ils veulent monter la ville au moins à 35 lignes de métro, peut-être plus selon la croissance de la ville.
Ouais.
Mais du coup, le tableau que vous êtes en train de peindre là, c'est hyper hétéroclite. C'est vraiment, enfin, j'imagine qu'on sent encore les bases de la formation de la ville avec tous ces villages qui ont été regroupés. Donc, j'imagine qu'il y a encore des coins qui sont très modestes. Et puis le coin industriel avec les usines dont on parlait. Et puis, ce qui me surprend un petit peu, c'est cet aspect bourse et place financière. Donc, il y a vraiment, j'ai l'impression que si on marche dans la ville, déjà, ça va prendre un moment, mais on va voir toutes les formes de société possibles, quoi. Société genre, d'évolution de la société, quoi.
Ah oui, absolument.
C'est un truc m'intéresserait, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que vous êtes à l'aise dans Shenzhen? Est-ce que vous vous sentez, ça fait, si j'ai bien compris, Eri, 2 ans que tu y es, je crois que Marie, c'est à peu près la même durée. Est-ce que vous êtes à l'aise?
Moi, ça fait 3 ans. Oui.
D'accord, donc un petit peu plus longtemps.
Ouais.
Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que chez vous, vous vous sentez chez vous, à la maison? Est-ce que vous imagineriez rester longtemps? Quel est votre ressenti, votre impression de la ville aujourd'hui?
Bah, la ville de Shenzhen est faite d'immigrés, déjà, d'immigrés chinois essentiellement, hein, bien sûr. Mais il y a très peu de natifs de Shenzhen. La plupart viennent d'autres provinces, et en tout cas d'autres villes. Et c'est une ville qui est très jeune. Et c'est une ville où on vient pour travailler, pour réussir. C'est pas forcément une ville qui est vraiment très axée sur... le plaisir, sur tout ce genre de choses. On vient vraiment pour réussir, pour travailler, pour se faire des contacts, tout ce genre de choses. Et donc, c'est un choix, en fait. Si j'ai envie de continuer à faire du business et essayer de monter ma boîte et de me faire grandir, c'est un très bon endroit. Au contraire, je dirais que le jour où j'ai envie d'avoir des enfants, je pense que je partirai pour un climat, enfin pour un environnement un peu plus western, un peu plus européen, je pense.
Mmh. Eri, mêmes impressions?
Oui, c'est ça un peu. On a l'impression qu'ici tout le monde est de passage. Juste, les gens arrivent pour faire quelques années, gagner de l'argent et construire leur maison ailleurs. Après, comparé à d'autres villes chinoises, je trouve que Shenzhen a des bons avantages, donc, comme par exemple, on va le dire, la proximité avec Hong Kong.
Ouais.
Ça, si on manque de choses western, ben, on redescend et on remonte très rapidement.
C'est combien de temps de trajet Hong Kong-Shenzhen?
1 heure et demie, porte à porte.
1 heure et demie, une heure pour moi.
D'accord.
Ah ouais.
Donc,
et puis on peut prendre le bus ou le ferry ou le métro.
Le métro.
Ouais.
Ah, il y a un métro qui va jusqu'à Hong Kong.
Bah, il y a le métro de Shenzhen qui arrive soit à Futian, soit à Lohu. Et on traverse la border. Et de l'autre côté, on reprend le métro hongkongais.
D'accord.
Les villes sont très liées, vraiment. Les villes sont vraiment très liées, donc c'est vraiment quelque chose de bien. Après, bon, je l'avoue que l'internet censuré, il y a des fois où ça tape un peu sur les nerfs. On parle quand même de... Encore Facebook, Twitter, Instagram, je pourrais m'en passer, mais ne pas avoir Google au quotidien, ça fait mal. Ça fait vraiment mal.
Justement, c'est un aspect très intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez au quotidien, cette mainmise du gouvernement sur la... Et ne vous mettez pas en danger, hein, peut-être qu'il faut pas trop en parler, mais cette mainmise du gouvernement sur Internet, les médias, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous marque? Et est-ce que c'est quelque chose qui marque les Chinois, les Shenzhenois eux-mêmes d'origine, même s'ils ne sont pas visiblement de Shenzhen?
Je dirais que chez les Chinois, ils trouvent ça assez normal parce qu'ils ont connu que ça. Et en général, ça ne semble pas vraiment les affecter. Donc, à part s'ils commencent dans un discours politique, mais en général, moi j'ai trouvé que les Chinois que je rencontre, des amis ou les associés, sont assez apolitiques, donc ça ne semble pas vraiment être un problème. Et après, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que est-ce que dans l'Ouest, on n'est pas contrôlé aussi? Est-ce que, forcément, Google est en train de regarder ce qu'on tape et tout ça. À partir du moment qu'on a le Gmail connecté, Google voit presque tout ce qu'on voit. Ok, ils n'ont pas de relation directe avec le gouvernement, mais bon, je ne sais pas.
Oui. Je comprends le problème aussi, c'est un autre problème, disons. Peut-être que c'est un problème aussi, mais c'est quand même un problème différent, j'imagine. Mais on va revenir un petit peu plus tard à la question de l'open source et de ce laboratoire dont je crois tu voulais parler, Eri. Mais avant de passer là-dessus, je te pose aussi la question de est-ce que c'est vraiment on ressent ce poids du gouvernement et quand on dit les Chinois ça a pas l'air de les déranger, c'est sûr qu'on n'est plus en pleine dictature communiste lourde, mais enfin il y a quand même une certaine puissance du gouvernement qui est plus importante qu'ailleurs. Donc, est-ce qu'ils savent même que ailleurs, c'est différent, ou est-ce qu'ils se disent, oui, mais enfin, regardez, comment ça se passe chez vous, c'est pas tellement mieux, quoi.
Principalement, quand je parle à des jeunes personnes ici, des personnes de 20 à 25 ans. En général, elles sont au courant de ce qui se passe à l'extérieur. Je connais pas mal de Chinois de locaux qui ont des comptes Instagram, qui ont des comptes Facebook,
qui accèdent par
VPN. Mais il y en a beaucoup qui ont connu aussi. Il y en a pas mal qui ont connu la Google avant que ce soit bloqué ici. Voilà, il y en a beaucoup qui ont connu Google avant que ce soit bloqué. Je sais plus si c'était en 2011. Je sais plus vraiment la date. Mais ils ont été utilisateurs réguliers de Google, de YouTube avant de la fermeture. Et concrètement, Shenzhen, en fait, c'est un peu une ville apolitique. Effectivement, comme elle a souligné Marie, c'est un peu apolitique. Les gens, en tout cas dans la province où on est, ils font pas trop attention au gouvernement, parce que c'est un peu loin et en général, ils font énormément de business avec l'international. Donc, c'est vraiment apolitique à ce niveau-là. Après, au niveau professionnel, en tant que développeur.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Oui, c'est handicap. C'est clairement handicap. Parce que tout simplement, on n'a pas accès. On a des choses qui sont bloquées de manière aléatoire. Par exemple, GitHub qui a été bloqué pendant un certain temps. Alors que GitHub, c'est un site où on héberge du code source. Je voyais pas trop d'intérêt de bloquer ça, mais voilà. Mais de toute façon, les Chinois s'y retrouvent parce que peu importe le produit qu'on a en Occident, il y a une copie conforme en Chine.
Y compris pour ça, les services.
GitHub a son homologue.
Ah oui.
GitHub a son clone chinois. GoldDrive a son clone chinois. Tous les services, peu importe le service que tu as en Occident, sera copié en Chine. Il y a un équivalent chinois qui, lui, ne risque pas la censure.
Et d'ailleurs, en fait, c'est là la grande question, c'est est-ce que il y a le Great Firewall pour restreindre accès à l'information, ou est-ce que c'est plutôt pour donner un avantage compétitif aux boîtes chinoises? Parce que en réalité, quand Facebook était légal, on pouvait y accéder facilement, il n'y avait pas tellement de gens chinois sur Facebook, parce que les gens vont là où il y a leur réseau. Facebook n'a que de la valeur si mes amis sont dessus. Et donc, il n'y avait pas tellement de gens, mais je pense qu'ils se sont dit « Ok, on préfère donner un avantage compétitif à Shenzhen et à Weibo. »
C'est vrai.
D'accord, donc c'est un outil économique également. Économique. Peut-être. Oui. J'imagine que le fait de pouvoir contrôler les informations n'est pas anodin non plus, mais c'est peut-être pas la seule raison.
Bien sûr.
On a évoqué la chose à plusieurs reprises, les copies et le fait qu'il n'y ait pas vraiment de propriété intellectuelle. En Chine, et en particulier à Shenzhen, qui est une sorte de laboratoire en ébullition avec ses 10 ou 20 millions de personnes. C'est toi, Eric, qui m'a envoyé un reportage très intéressant de Wired qui s'appelle Shenzhen, The Silicon Valley of Hardware, et qui est disponible sur YouTube. C'est un documentaire de Wired. Donc, je répète, Shenzhen, The Silicon Valley of Hardware. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Et ce qui m'a vraiment frappé dans ce documentaire, c'est que, de mon point de vue, cette absence de propriété intellectuelle veut dire qu'on ne peut pas faire fructifier une idée qu'on a eue facilement. Et du point de vue du reportage, ou peut-être du point de vue chinois, la manière dont ils le pensent, c'est que ils sont en fait en train de construire un écosystème où tout est de fait open source et tout le monde a accès à tout. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette, enfin tous les deux peut-être, nous parler de cet environnement qui est tellement différent de ce qu'on connaît nous ici, et de cette vision genre de l'open source plutôt que de l'absence de propriété intellectuelle, qui est une manière intéressante de voir les choses. Eri, peut-être.
Alors, la vision de l'open source chinois, il faut comprendre ici, surtout à Shenzhen, c'est que c'est aussi dû à la logistique. C'est-à-dire que tu as plusieurs usines qui construisent chacun un composant différent. Mais au final, leur idée, c'est que si jamais tu mets les plans à disposition, chaque usine s'échange les composants et finalement tout le monde produit le produit final en plus grosse quantité. Et derrière, eux, ce qu'ils aiment bien faire, c'est customiser, adapter de manière à pouvoir vendre au marché, par exemple au marché européen. Donc c'est un peu plus ça. Après, au niveau de l'open source, ils arrivent quand même à innover pas mal de choses. Par exemple, ils ont, pour la VR notamment, enfin puisque moi je suis vraiment intéressé par la VR et à chaque fois je vais au salon, et ils ont inventé totalement un écosystème purement chinois qui s'appelle Nibiru. qui n'a rien à voir avec Steam VR ou alors l'Oculus Rift, qui n'a rien à voir avec ces choses-là, et qui est en fait leur store chinois pour les applications VR. Et justement, cette chose-là est née de l'open source, enfin, de l'open source, ou alors, on va pas se mâcher les mots, il y a quand même de la violation de propriété intellectuelle. Ça arrive, c'est commun. Et derrière, ce qu'ils font, c'est décompiler, analyser ce qui s'est passé, et derrière, essayer de sortir un produit d'abord pour le marché chinois, des fois uniquement pour le marché chinois, parce que ils savent qu'ils peuvent pas, ils ont du mal à être compétitifs avec les trucs étrangers, ou alors simplement, un grand exemple, c'est l'Overboard, où les plans ont carrément leaké sur tout Shenzhen. Et apparemment, en moins d'une semaine, toutes les usines ici fabriquaient un overboard.
mais en fait, c'est ça qui est surprenant, c'est que on parle d'open source, c'est pas l'open source comme on l'imagine nous ici avec la structure open non. source et puis on lance un truc et on s'assure que tout le monde travaille. C'est l'idée que quand on caractérise ça par de l'open source, c'est l'idée que quand au niveau matériel surtout, c'est moins le cas ici, ça existe moins ici, mais même au niveau matériel, tout le monde peut copier tout le monde, et du coup tout le monde peut essayer d'améliorer le travail de tout le monde. Et ce qui était ce qui était clair dans ce reportage, c'est que c'est pas juste qu'on copie, mais c'est que c'est un avantage compétitif pour tout le monde finalement.
Oui, c'était ça. C'est vraiment ce qu'ils exprimaient. Ils disaient que si on fermait un écosystème, ça n'avait pas d'intérêt. Tandis que si on partageait la connaissance, eh bien, ça permettait à tout le monde de participer à l'amélioration.
Est-ce que vous... Ouais, pardon, vas-y Marie, peut-être un commentaire sur
non,
cette
non,
histoire.
Non, je trouve que Harry a très bien ouvert la chose. J'ai vu ça dans un article. Ce qu'il dit, c'est si tu veux voir comment tu peux vraiment ton produit peut vraiment être le meilleur possible, tu devrais lancer ton produit, regarder sur Alibaba et sur tous les sites chinois les copies, et normalement tu devrais voir enfin toutes les choses qu'ils ont faites pour que le produit soit au top, et recopier ça derrière et personnalisé avec ta marque, etc. Donc, je pense que Iri a très bien couvert. Ouais.
Et du coup, est-ce
après,
que... Oui, pardon, vas-y.
Après, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que cette idée d'open source, même si les Chinois en font beaucoup usage, les Occidentaux en font aussi. C'est-à-dire qu'il y a des cas sur Kickstarter où le projet est financé, et certaines personnes... Des fois, genre, il y avait une histoire récemment,
avec le Fidget Cube, non?
Voilà, lui, exactement, exactement. Ouais. Où justement, le gars a un peu doublé le Kickstarter et a demandé à une usine de produire plus rapidement que l'usine de production officielle. Et ce gars-là était pas chinois, il était occidental. Je sais plus de quel pays exactement.
Oui, il était encore à la fac aux États-Unis, je crois.
Voilà, c'est ça.
Donc en fait, il a vu le projet sur Kickstarter et puis il a été voir l'usine et il leur a dit faites-le-moi tout de suite, on n'attend pas les autres là. Et du coup, il a oui, mais bon, effectivement, je comprends que ça puisse arriver, mais c'est pas institutionnalisé comme c'est le cas à Shenzhen.
Ouais, effectivement, c'est pas institutionnalisé.
Et du coup, est-ce que vous considérez aujourd'hui, avec votre expérience, que c'est un avantage économique, je vais même pas parler de compétitif, mais pour la société, est-ce qu'il vaut mieux ? Alors c'est une question difficile, hein, et je suis sûr que vous pouvez pas répondre par oui ou par non, mais est-ce qu'il vaut mieux travailler comme les gens travaillent à Shenzhen, avec une liberté de copie totale, ou est-ce que, économiquement, pour que la société se porte mieux, génère plus de richesses pour le plus de monde possible, est-ce qu'il vaut mieux avoir un système où on protège la propriété intellectuelle, à votre avis, de votre point de vue ?
Sur le monde de la tech ou juste en général ?
Parlons de la tech, oui, parlons de la tech plutôt, parce que c'est sûr que c'est toujours cette image qu'on a de la Chine, c'est qu'ils vont copier ce que font soit les Occidentaux, soit même les Chinois, ils vont copier, faire des copies souvent un petit peu moins bonnes, et puis voilà, ils vont en vendre des trucs bon marché, mais on ne sait pas très bien, on voit les les constructeurs de téléphones qui ont du mal à tenir sur le bas de gamme parce que les marges sont trop faibles, etc., etc. Donc, je sais pas. Je sais que c'est une question compliquée, presque piège, mais je la pose quand même.
Marie.
Il
n'y
a pas de réponse.
Oui, alors, je dirais, c'est que je pense que le mieux, c'est quand même de rester open source. Après, moi, je suis pas ingénieur, je suis pas technique. Mais ce que j'ai remarqué avec tous les techniciens que j'ai rencontrés à Shenzhen, c'est que de plus en plus, les produits n'ont pas juste besoin de hardware, mais aussi de software. Et donc, le fait d'avoir un produit, le fait qu'il soit unique, c'est la fusion de ces deux choses. Et on ne peut pas forcément copier ces deux choses-là en même temps. Et donc, le fait que ce soit open source, ce n'est pas forcément un problème. C'est ce que je dirais. Mmh. Après, comme j'ai dit, peut-être que Harry pourrait rebondir sur ce que je dis.
Bon, pour ma part... En tant que technicien, je dirais c'est au cas par cas. On peut pas tout traiter sur une même généralité, mais on peut dire, oui, on va dire qu'au niveau open source, si jamais, en fait, si tu es contributeur, oui, tu peux faire partie d'un truc open source, mais c'est rarement le cas ici. Les gens ont plus tendance à confondre open source et gratuit. Voilà, c'est plus de la open source et gratuité. C'est-à-dire qu'en général, c'est plutôt je prends la plateforme, la base, et je la modifie et je la sors, mais je ne sors pas la base modifiée.
Oui, bien sûr. Non, mais je pense que on a bien compris que c'est la manière dont ça fonctionne, mais c'est ça le cœur de la question finalement. Est-ce que j'appelle open source, qui est en fait de la copie pure et simple, est-ce que à Shenzhen, ils sont en train de montrer que ça marche? Bien, peut-être même mieux que nos systèmes de protection de propriété intellectuelle ici. Moi, je suis pas de cet avis, mais vous y êtes, donc.
Non, honnêtement, pour moi, je ne suis pas de cet avis. Il y a un truc simple, c'est j'ai vu tous les devices de VR, de réalité virtuelle qui sortent ici à Shenzhen. Ils ont des palettes, ils en ont au moins 100 modèles différents. Et sur les 100 modèles différents, t'en as quasiment 80 qui se ressemblent. T'as environ 10% qui donnent pas mal à la tête et 5% qui donnent pas envie de vomir. D'accord. Honnêtement, c'est un peu l'état des lieux. C'est vraiment l'état des lieux. J'ai fait un salon de VR récemment et il y avait pas vraiment de recherche. Ils se contentaient un peu de rester un peu dans leur zone de sécurité, on va dire. Et effectivement, quand tu vois ça, tu te dis c'était peut-être mieux de focaliser les efforts dans une compagnie, qu'elle fasse les choses correctement, plutôt qu'un peu étaler la connaissance partout. Et au final, il n'y a pas vraiment de breakthrough sur la technologie. Mmh.
Donc peut-être que je suis pas d'accord. C'est un peu l'analyse qu'on fait souvent, c'est que ce type d'environnement, c'est bien pour des produits qui sont commoditisés, c'est-à-dire qu'on va produire en masse et dont qu'on va rendre accessible au plus grand nombre, mais c'est moins bien pour motiver la recherche et l'innovation spécifiquement.
C'est ça. Ouais.
Donc il y a deux cas, il y a 1000 cas différents. Mais pardon Marie, tu voulais ajouter quelque chose ?
C'est vrai qu'en fait, le open source, ça permet d'avoir plus de marques pour pouvoir plus personnaliser à chaque type de personne, chaque niche dans un business. Et c'est ça qui est assez spécial, je pense. Si on était resté au iPhone, on aurait tous exactement le même. Exactement le même téléphone et on n'aurait pas pu aller personnaliser sur autre chose. Mmh.
C'est vrai que dans le reportage, par exemple, il y avait des exemples assez frappants de la manière dont les gens peuvent immédiatement se faire fabriquer des choses, se faire modifier des choses. Il y a des marchés immenses où les gens viennent vendre des dizaines, des centaines de produits. J'ai l'impression de voir une planète commerce de Star Wars où la planète entière est un immense marché avec des milliards de petits vendeurs qui viennent présenter sur leur étal les trucs, quoi.
C'est exactement ça.
C'est le marché de Wuxiangbei, quand il l'a montré, ben c'est exactement ça. Tu as 5 étages de composants électroniques. Tu peux littéralement te construire ton téléphone pièce par pièce.
Et du coup, c'est quand même ce type d'environnement donne des possibilités. Vous parliez de culture de maker. On connaît ce terme de bidouilleur finalement d'électronique. C'est le paradis des makers finalement, Shenzhen.
Absolument. Et d'ailleurs, il y a plusieurs makerspaces qui sont justement à Wuxiangbei même. Même si Wuxiangbei est en train de changer, beaucoup changer, mais beaucoup des incubateurs sont là-bas parce que si les gens sont en train de produire leurs prototypes ou en train de même aller en stage un peu plus loin, ça leur permet, si jamais ils ont besoin d'un composant différent, ils vont à Wuxiangbei et ils vont chercher ce dont ils ont besoin. Et une fois qu'ils ont fini leur prototype ou leur deuxième version, ils peuvent après racheter à la factory, parce que à Wuxiangbei, c'est souvent des gars qui ont déjà leur usine et ils sont là pour représenter leur usine. Donc lorsque tu leur achètes un composant, en général, ça leur fait pas très plaisir parce qu'ils sont plutôt là pour vendre en masse. Mais justement, tu peux en acheter qu'un, essayer sur ton prototype et lui, il espère qu'en l'utilisant, tu lui rachèteras peut-être après en masse.
Donc tu peux y aller, trouver un composant qui te plaît parmi les milliers qui sont présentés, et puis leur dire bon bah celui-là c'est pas mal, vous m'en fabriquez 10 000 pour la semaine prochaine, quoi.
C'est ça. Et donc du coup, en général ils les ont déjà, hein, je pense. Mais en fait voilà. Ouais. Mais le problème c'est que par exemple en France et tout ça, on est obligé de les commander en ligne et il faut attendre qu'ils soient livrés, et si ça marche pas, c'est un problème, etc. Donc là, il y a vraiment le choix pour pouvoir tester et retester.
Ouais, c'est un environnement qui a l'air effectivement assez unique. Ça me fait un petit peu penser, en mille fois plus gros, à un marché qui existait au Japon, à Tokyo, à Akihabara, dont certains qui y sont allés il y a un peu plus de 10 ans se souviendront peut-être. C'était juste à la sortie de la gare à droite. Il y avait une sorte de petit marché couvert avec tout plein de composants aussi, mais c'était un truc sur, 2000 m². C'était tout petit en fait par rapport, mais déjà ça c'était assez unique. Donc j'imagine bien que ce type d'environnement est assez unique dans le monde aussi, l'environnement qu'on décrit pour Shenzhen. Peut-être une dernière question avant de se séparer. De ce que vous connaissez de la Chine, est-ce que Shenzhen est représentatif de la Chine, sans peut-être même parler des campagnes dont on le sait qu'elles sont très très différentes et très peu industrialisées par rapport aux grandes villes, mais est-ce que c'est représentatif de la Chine en général, ou est-ce que effectivement c'est complètement différent et Shenzhen, il n'y a que Shenzhen qui est comme ça?
Il n'y a que Shenzhen qui est comme ça. c'est une ville qui a été construite il y a 35 ans, qui a vu des immeubles pousser du jour au lendemain, qui a eu vraiment un cœur d'innovation, un cœur de création, où même toutes les usines se construire pour exporter. Et c'est pareil, on n'a aucune autre ville qui a l'ouverture comme elle a ici. Par exemple, j'en plaisantais, mais la proximité avec Hong Kong, ça donne une grosse ouverture sur le monde quand même.
Ouais.
J'ai vu Shanghai, j'ai vu Pékin, aucune ville n'a vraiment cet ADN là. C'est vraiment une ville unique pour moi.
Je suis d'accord. Et c'est vrai que ce que je dirais, après on retrouve le même degré de professionnalisme avec les Chinois partout en Chine. Mais ce que je dirais à Shenzhen, c'est quand même une ville assez entrepreneur. Et c'est vrai que par exemple, en général, comme on dit, les Chinois copient, etc. Mais à Shenzhen, il y a eu beaucoup de produits qui ont été créés ici. Et je pense notamment au monde de la e-cigarette. Et le créateur de la e-cigarette est chinois. Et Il y a tout un quartier à Shenzhen où il y a toutes les usines de e-cigarettes qui sont là. Et c'est assez incroyable, elles sont toutes l'une à côté de l'autre. Essentiellement, le marché de la e-cigarette est à Shenzhen. Voilà.
Mais alors,
donc,
justement,
ça a été une création chinoise.
C'est une question intéressante. C'est une création chinoise. Est-ce que la personne qui l'a créée, parce que ça, c'est vraiment un produit qui n'existait pas ailleurs, est-ce qu'il a réussi financièrement, économiquement, ou est-ce que tout le monde l'a copié tout de suite et donc il a été un petit peu noyé dans la masse?
Ça, c'est une bonne question, ça.
C'est une vraie question. Justement, un de mes clients travaille dans ce monde, mais je pense
mais du
que,
coup, c'est, vous
je
avez
pense
pas
que
le...
lui a encore...
Vous n'avez pas son nom ou le nom de sa société qui est genre le type qui a réussi dans la qui a créé la e-cigarette et on le connaît, quoi.
Non. Moi, je connais son nom, Wang, mais c'est vrai qu'il n'a pas préservé sa marque. Mais à l'origine, c'était un médecin. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il n'a pas voulu investir beaucoup de temps dedans. Mais, ouais.
Bon, et puis, c'est vrai qu'il existe des grandes marques chinoises et on en parle tout le temps. Elles sont de plus en plus grosses. Donc, c'est sûr que ça existe.
C'est ça.
OK. Bah, écoutez, bon, toute dernière question essentielle pour de vrai cette fois. Est-ce qu'on trouve déjà des hipsters dans les rues de Shenzhen ou est-ce qu'ils n'ont pas encore envahi cette ville-là?
Ils sont là. Ils sont là sur leurs overboards.
D'accord.
Ils sont là, curieusement tapés sur leur téléphone.
D'accord. Donc, bah écoutez, c'est la preuve ultime de la civilisation en déclin de Shenzhen, c'est qu'ils ont aussi les hipsters.
Bon,
les hipsters, j'ai trouvé, sont. Ouais. Les hipsters, en général, j'ai trouvé que c'est des designers.
Ouais, c'est pas étonnant, en fait. Ça correspond bien. D'accord. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour cette longue conversation et pour votre témoignage sur votre vie à Shenzhen. Avant de se quitter, peut-être, je vais vous proposer, si vous avez une présence en ligne que vous voulez donner aux auditeurs pour qu'ils puissent vous retrouver, de le dire maintenant. Si vous en avez pas, il n'y a pas de souci, bien sûr, mais Marie, peut-être?
Oui, donc vous pourrez me trouver sur Twitter, @MarieTatiBouet, et aussi sur Medium, pareil. Donc voilà, et merci à tous d'avoir écouté, et merci à toi Patrick.
Bah merci, donc @MarieTatiBouet, le lien sera dans les notes de l'émission, et Eri, qu'en est-il pour toi?
Donc dans mon cas, bon, vous avez mon site web, www.andriange.com, donc HANDRIANG.com. Et voilà, simplement, je crois que c'est le seul média internet que je peux mettre à jour en ce moment.
D'accord. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup à toi également. Merci à tous les deux. Pour ma part, vous le savez, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Et vous pouvez retrouver l'émission sur FrenchSpin.fr. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.